Salut Pierre-Yves.
Salut.
Donc, piratage chez CPA Canada. C'est quoi ça, CPA Canada?
Mais disons que c'est l'entité canadienne qui chapeaute les ordres provinciaux. Mais en somme, moi, je suis membre CPA Canada, mais je suis membre principalement de l'ordre des CPA du Québec. Tu sais, c'est comme le regroupement des regroupements. Et il y a une séparation entre les deux. Donc, il faut comprendre que si CPA Canada a été piraté au niveau des données comme le nom et l'adresse, ben ce n'est pas le cas chez CPA Québec. Mais là, je suis pas en train de te faire un exercice de relations publiques. Je suis en train de te parler de piratage. C'est un exemple parmi tant d'autres, il y en arrive plusieurs, bon, c'est pas gros comme chez Desjardins, mais disons qu'il y a des données qui sont volées tous les jours, on sait même pas, hein. Il suffit qu'il y ait un employé d'une place qui a accès à une base de données qui veut s'en servir pour d'autres choses, donc je sais maintenant que je peux être hameçonné en sachant mon nom, mon adresse, et je dois être vigilant, donc c'est pour ça que les entreprises puis les organisations doivent faire preuve d'une très grande transparence, parce que dès que c'est fait ou il y a une brèche ou il y a un problème, l'important, c'est que le membre soit au courant ou que l'employé soit au courant ou que le client soit au courant pour qu'il puisse prendre des mesures de vigilance. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix à la transparence. Et je vais t'amener des dangers secondaires. C'est-à-dire que le danger de me faire voler mon adresse, c'est pas bien grave, puis mon nom, puis quelques données qui sont déjà dans le bottin, ça me stresse moins. Ce qui est plus stressant, c'est se faire voler, par exemple, des données non encryptées financières, numéro de carte de crédit avec le petit code spécial en arrière. Ça, on nous dit qu'il n'y a pas de danger dans ce cas-ci. Par contre, je peux avoir une base de données qui a volé une partie de mes infos et des pirates sur une base de données. Et je peux avoir des pirates qui volent aussi des données sur une autre base où je suis client, puis une autre base où je suis client. Et le vrai danger futur, c'est le regroupement des bases de données de vol des cybercriminels. Donc, si par exemple je vole des données à l'Agence du revenu du Canada, puis je vole des données dans une succursale bancaire, ben veux pas, si on fait le lien entre les deux, je pourrais m'ouvrir un compte de PCU, puis aller m'ouvrir un compte bancaire chez Tangerine, puis me verser de l'argent illégalement, tu comprends?
Oui.
Donc, il y a ça là derrière. Donc, pourquoi j'en parle? C'est qu'il y a un lien avec la cybersécurité, l'info nuagique, et justement, au niveau de l'investissement et de la chronique financière, on peut aller plus loin. On peut se dire que il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Tu sais, moi, si j'étudiais aujourd'hui en informatique, peut-être la cybersécurité, ça m'intéresserait. Parce que tu vois bien que dans le futur, ça va être extrêmement important. Et donc, des compagnies comme Microsoft ou qui avaient baissé un peu pas mal pendant, disons, la COVID, il y avait une descente en V puis une remontée en V, si tu veux. Ben là, on voit que l'action est au même niveau que pratiquement qu'avant la COVID et que sur un an, il y a 43% de rendement. Pourquoi? Ben on est dans le futur chez Microsoft. Tu sais, on ne pense plus juste à Windows, on pense à de l'info nuagique, on pense à de la cybersécurité, on pense à de l'intégration des données. Donc, tu vois comment c'est, je sais que tu trouves ça bizarre, mais je vais te dire un mot. C'est fascinant de voir les regroupements qui se font et comment on n'a plus de contrôle comme individu. Et un peu comme avec le coronavirus, on relâche des fois notre vigilance. Tu dis, je vais prendre le même mot de passe, telle place puis telle place.
Mais moi, je fais très attention, Pierre-Yves, mais des fois, dans le feu de l'action, tu vérifies tes courriels. Chaque courriel n'est pas l'objet d'une attention optimale. Tu comprends-tu? Tu prends pas tous tes courriels pour te dire, bon, est-ce que...
Surtout si t'en as plus que trois par jour.
Ben, si t'en as trois par jour, t'as peut-être le temps, mais la plupart des gens là en ont beaucoup. Moi, ça m'est arrivé de me dire, ah ben oui, c'est vrai, écoute, pour tel service, ma carte de crédit est probablement échue. Puis là, tu regardes attentivement le site où on t'envoie, puis tu dis, ben non, mais c'est pas le site de Netflix, par exemple. Là, tu vas sur le site de Netflix, puis il n'y a pas de problème avec ta carte de crédit. Je te dis, à chaque fois que tu remplis un formulaire, à chaque fois que tu sors ta carte de crédit, faut que là, tu mettes beaucoup d'attention là-dessus pour pas te faire pogner.
Mais les 10 plus grandes fraudes au Canada, disons que ce sont des situations que tu dis, ben ouais, donc les gens se sont fait pogner là-dedans. Ben oui, tu sais, l'hameçonnage, là. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu te fais hameçonner, des fois, on t'arrive et on dit « Ah, ton compte à Apple, il est pas correct. Rends ton mot de passe puis ton nom puis accède pour modifier. » Attends une minute, moi, je regarde tout le temps l'adresse qui est semblable à une adresse officielle, mais qui est un peu, tu sais, un petit peu, disons, arrangée. Oui. C'est comme les gens qui me demandent pour être amis sur Facebook. Je fais un minimum de due diligence. Si la personne, la photo est un petit peu pixelisée puis que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de publications originales, je me dis « Ah, ça, clairement, que c'est quelqu'un qui essaie d'utiliser un profil. »
Pas une vraie personne.
Exact, à des mauvaises fins.
OK, parle-moi de Sportium, là, oui. Dont tous les magasins vont fermer.
Les six. Qui est une bannière de sel dont on parlait hier. Donc, dans le fond, on arrive en période de restructuration, on fait une analyse financière, on regarde ce qui va bien, moins bien, on fait des ratios, on se dit, bon, les marges sont où? Puis on regarde l'avenir puis la concurrence. Comme par exemple, Sportium dans le sport. Ce qui est difficile, c'est qu'un en ligne, Patrick, si je veux une raquette d'une certaine compagnie, puis en ligne, je peux l'avoir. C'est pas comme un morceau de vêtement, par exemple. Là, il y a peut-être du choix à essayer, mais pour des produits de sport, des souliers, des ballons, c'est un peu comme l'électronique. Quand tu cherches un modèle précis, tu peux magasiner le prix. Et il y a ça. Il y a aussi la COVID, évidemment, qui a accéléré les choses. Mais aussi des groupes concurrentiels comme Canadian Tire et Sport Expert qui sont regroupés. Et Canadian Tire, l'avantage, quelqu'un s'en va là pour acheter des outils, ça se peut qu'il fasse un achat impulsif sur le sport. Un achat croisé, tu sais. Oui. Ce qui est moins possible dans un magasin uniquement de sport. Ou si tu vas là, c'est parce que tu vas regarder du sport. L'autre point, c'est que t'as, depuis l'entrée en 2015 de Sportium, il y a eu aussi l'arrivée de Decathlon. C'est pas un petit joueur. Tu sais, c'est pas Joe Patate qui débarque, là. C'est, tu sais, c'est un grand géant mondial qui débarque ici et qui vient chercher une autre part de marché. Il y a de la consolidation dans ce marché-là. Et là, tu te dis, l'avenir me dit quoi? Si je regarde mes segments chez Sell, qu'est-ce qui va me permettre de survivre? Est-ce que le sport, je peux m'améliorer ou me détériorer? Est-ce que la tendance, c'est que je vais faire de plus en plus de marge ou de moins en moins de marge? Et quelle est ma valeur distinctive? Le client, est-ce qu'on a réussi en 5 ans à créer quelque chose d'assez fort pour que le client nous voit comme une haute différenciation et vienne nous voir plus que les concurrents? Et ça me fait penser aussi un peu à l'accorder. Là. Tu sais, il y a beaucoup de commerces dans ce milieu-là de détails qui sont en difficulté, non seulement à cause de la COVID, Patrick, mais ce qui se passait avant. La COVID a été une espèce de catalyseur, un accélérateur. Ben, et donc, c'est dommage pour les employés.
Hier, j'ai parlé avec Marie-Ève Fournier du journal La Presse, là, qui est spécialisée en commerce au détail. Et ce qu'elle nous disait, c'est que de te mettre comme chaîne, comme ça, là, quand tu te places sous la protection des lois de la faillite, c'est une des seules façons qui te permet de fermer des magasins dont les baux sont, semble-t-il, toujours à l'avantage des propriétaires.
Oui.
Fait que si tu fais pas ça, tu peux pas larguer tes canards boiteux, là.
C'est ça. Tu largues tes canards boiteux. Puis deuxième point, c'est que tu peux pas négocier avec tes créanciers c'est comme regarder tes créanciers dans les yeux puis leur dire, regardez, là, on est sérieux. On s'est mis sous la protection. Et donc, là, tu vas regarder tes créanciers puis tu dis, OK, je vais leur proposer un plan, un remboursement partiel et, pour ça, je vais leur montrer mon plan de l'allure. Je vais fermer Sportium parce que je vais leur montrer que j'ai fait mon analyse sérieuse et que ça va pas survivre, mais qu'on va se reconcentrer ailleurs et ça va me permettre de négocier une fin de bail. Et t'as raison, Patrick, c'est spectaculaire quand même de voir les hécatombes quotidiennes. Mm. On a parlé récemment de Redmond, on a parlé de... Il y a même Hertz, tu sais, il y a plein de compagnies, il y a Jack and Jones. Donc, ça n'arrêtera pas là. Ce sont les premiers qui tombent parce que c'était les premiers qui étaient vulnérables avant la COVID.
Très bien, merci, PY. Salut. On se reparle lundi, t'as congé demain.